Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clément Salazar, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Caroline Bonin, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Et ce matin, pour clore donc notre semaine consacrée au retour des murs, c'est à un mur monumental que nous nous intéressons, le plus long du monde, sans doute le plus illustre, tellement illustre qu'on a longtemps cru qu'on le voyait depuis la Lune. On va s'intéresser à la Grande Muraille de Chine et à la mythologie moderne et classique qui entoure cet ouvrage.
Il n'existe rien de comparable à la Grande Muraille. C'est le plus long monument jamais bâti par l'homme.
Nous avons constaté à notre grand étonnement que la muraille de Chine faisait en fait plus de 21 000 km de long, soit près de la moitié du tour de la Terre à l'équateur.
La construction a duré plus de 2000 ans, plus que n'importe quel autre édifice réalisé par l'homme.
Le mortier utilisé est très particulier, d'une blancheur éclatante. Certains des premiers voyageurs à avoir parcouru la muraille ont demandé aux habitants chinois des alentours pourquoi il était si clair. Et on leur a répondu que c'était parce qu'il contenait les os des ouvriers décédés.
Quand j'étais petit, ma grand-mère me disait que nous étions les descendants des bâtisseurs de la Grande Muraille. Je fais partie de la 25e génération. En tant qu'ouvrage militaire de défense, on peut dire que la Grande Muraille a parfaitement joué son rôle de protection.
Extrait de ce documentaire, l'histoire cachée de la Grande Muraille de Chine qui avait été diffusée sur Arte. Cette Grande Muraille n'a pas toujours exercé cette fascination et provoqué cette fierté dont font montre les Chinois aujourd'hui. Elle n'a pas non plus toujours été ce symbole de l'identité nationale, visible un peu partout depuis les insignes de la police chinoise jusqu'au récent blockbuster sino-hollywoodien de Yimou Zhang, tout juste sorti en France. On pense devoir la construction du long mur des 10 000 lits, comme l'appellent les Chinois, à un seul homme, Qin Shi Huang, le premier empereur. Unificateur de l'Empire de Chine, il est aussi vu comme le père de la Grande Muraille. Pourtant, sa construction s'est étalée en réalité sur plus de 2000 ans. La forme moderne qu'on lui connaît aujourd'hui apparaissant sous la dynastie des Ming au XVIe siècle lorsqu'on décida de la recouvrir de briques et de dalles de pierre. Un travail supervisé par un général qui n'hésita pas à sacrifier de nombreuses vies humaines pour mener à bien ce projet colossal. On parle de 10 millions de morts sur près d'un siècle, mais le premier empereur aura également marqué son époque par sa cruauté, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs Mao Zedong, quelques siècles plus tard, de le réhabiliter, fasciné sans doute par son double visage, celui de tyran, mais aussi celui de visionnaire auquel il s'identifie sans doute. Quoi qu'il en soit, on réalise que longtemps, cet édifice a représenté une œuvre de tyran, évoquant davantage la mort que le génie. Alors d'où viennent ces représentations? Que nous disent les légendes, la littérature, la poésie chinoise en la matière? Quand et comment est-elle devenue un motif de fierté et un véritable symbole national? On va revenir sur cette histoire riche, passionnante, découvrir l'imaginaire monumental de cette Grande Muraille de Chine entre folklore légendaire et symbole nationaliste. Pour évoquer ces sujets, nous avons deux invités ici en plateau. D'abord Françoise Jette, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Françoise Jette. Vous êtes architecte, responsable de l'Observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine à la Cité de l'architecture et du patrimoine. À vos côtés, Vincent Durand-Dasté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous enseignez l'histoire de la littérature à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. D'abord, il faut commencer par dire une chose, Françoise Jette, je me tourne vers vous, mais c'est qu'il n'y a pas une muraille de Chine en réalité. Il y en a plusieurs. Il s'agit d'un ensemble de plusieurs édifices différents.
Absolument. Absolument, et on a toujours des représentations très jolies dans les cartographies chinoises, et maintenant, grâce aux vues aériennes, aux vues satellites, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, parce qu'on voit à la fois des villes fortifiées, et puis on a des petits bouts d'enceinte qui les entourent, qui les encadrent, et chaque petite ville fortifiée a son fanion avec le nom du royaume qu'il évoquait. Et cette pluralité du découpage du territoire, de la manière dont sont marquées les marges et la manière dont le mur est là comme à la fois protection, comme défense, mais aussi comme définition d'une colonie militaire, une ville en même temps, eh bien c'est quelque chose que je trouve beaucoup beaucoup plus riche comme imaginaire que juste une barricade.
On reviendra évidemment sur ce découpage du territoire, mais je disais plusieurs murailles, il n'y a pas non plus d'unité dans les modes de construction, dans les matériaux utilisés. En fait, ça varie beaucoup d'une portion à l'autre.
Absolument. Quand on est proche des déserts de l'Ouest, alors moi, c'est tout l'imaginaire de mes cours de chinois et je rends hommage à Delphine Velers qui nous faisait des cours de langue classique. Mais c'est ces images des tours de guet qui sont ravagées par le sable, parce qu'effectivement, elles ont été construites en terre et en roseaux, et en terre damée, donc l'origine d'ailleurs du mot que l'on a dans ville, Cheng, quand on regarde comment le terme est construit. Et dans un paysage qui est aujourd'hui entièrement désertique, eh bien on voit ce qu'il reste encore de ces murs de terre avec...
Qui ont très bien résisté.
Rien que cette évocation, on est parti ailleurs.
Vincent Durand-Dasté, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être le contexte dans lequel ont été construites en réalité ces murailles, sachant qu'évidemment toute la construction s'est en réalité, je le disais dans mon introduction, étalée sur plusieurs siècles, et nous dire finalement ce qui a motivé l'érection de ces murailles?
Bon, bien alors, il y a les murailles antiques d'abord, celles qui ont été faites avant et pendant l'époque du premier empereur. Alors les principautés chinoises d'avant l'unification étaient des principautés fortifiées, et notamment les passes qu'on retrouve beaucoup dans la littérature historique et dans la littérature tout court, qui séparaient les pays les uns des autres, étaient souvent des pays fortifiés. Mais l'empereur de Chine, le premier empereur, a unifié le pays, il a fait un certain nombre de travaux au nord, hein, vers la steppe, pour établir une ligne de fortification. Et de là, c'était un empereur qui avait commis de nombreuses exactions, qui était
un tyran, disons-le.
Oui, il était d'une violence inouïe.
On a à peu près 2 siècles avant Jésus-Christ, juste pour les auditeurs.
Tout à fait. Et donc, après sa mort, sa figure a été honnie pendant à peu près toute l'histoire chinoise. Et le Mengtian, celui qu'il avait chargé de ses travaux au nord, lorsqu'il a été exécuté peu après la mort de son empereur, et en mourant, il aurait dit qu'il avait violé les entrailles de la terre, il a coupé les veines du dragon en construisant la Grande Muraille. Et à partir de là, commence cette image négative de la Grande Muraille. Mais le grand choc, finalement, c'est beaucoup plus tard. C'est alors qu'il y a eu des fortifications pendant tout le premier millénaire, mais les dynasties très fortes, comme celle des Trang, 618-907, ont fait très peu de murailles. Ils étaient suffisamment forts militairement pour s'en passer. Et c'est sous les Ming, après un incident choquant en 1449, je crois, où l'empereur a été capturé par un parti mongol, qu'on a décidé de fortifier la région de Pékin, la boucle des Ordos, qui est une incursion vers le nord du fleuve jaune, et que les grands travaux du XVIe siècle ont été accomplis.
Mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'en réalité, l'érection de ces murailles, elle coïncide avec le début de l'Empire chinois en réalité. C'est l'unification de la Chine qu'il y a derrière aussi.
La première grande muraille, celle du premier empereur, effectivement, est liée à ce mouvement d'unification brutale et radicale, effectivement, de la Chine. Elle fait partie de l'image noire du premier empereur, comme d'autres choses, et en même temps, de ce qui fera la gloire de l'Empire chinois.
On se protège de quoi, à l'époque ? D'où vient le danger ? D'où vient la menace ?
Il y a plein d'ennemis partout, mais évidemment, ceux qui prendront la figure d'ennemis héréditaires, ce sont les barbares de la steppe. Ce sont donc ceux...
Les Yongnu.
Les Tabgatch, plus tard les Mongols, il y aura des tas de noms, les proto-turcs et les Turcs, et tous ces, les Tibétains aussi, au passage, tous ceux qui sont qui connaissent l'élevage des chevaux, qui savent tirer à l'arc à cheval, qui sont d'excellents cavaliers et qui ne sont pas des agriculteurs.
Est-ce que cette muraille a seulement la fonction finalement d'organiser la défense d'un territoire, ou est-ce qu'elle est aussi un lieu depuis lequel on organise la stratégie militaire pour ensuite projeter des forces à l'extérieur? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de débats sur ce point-là entre les historiens chinois, certains considérant que c'est d'abord et avant tout un édifice défensif, alors que d'autres disent « attention, il est aussi question d'aller projeter des forces à l'extérieur ». Qu'est-ce que vous en savez de ça, vous ?
Je ne suis pas historien militaire. Ouais. Là, nous parlons en risquant de tomber du haut de la muraille. Mais par exemple,
essayons.
Il a été noté, par exemple, que la grande dynastie des Trang, qui a étendu ses territoires très loin vers l'ouest, n'a pas bâti de longs murs, de longues lignes de défense, mais avait des cités fortifiées et des périmètres de ces cités. Et c'est finalement dans des situations de relative faiblesse que les murs ont été souvent construits, notamment par les Song, du 10e au 13e siècle, ont commencé à construire des murailles. Et c'était, ça avait une certaine logique militaire. Il s'agissait de briser les charges de cavaliers. Donc ils ont fait des murailles, mais ils ont fait aussi des douves et des fossés.
Oui, et puis il y avait aussi des forts à côté de la muraille, dans lesquels étaient concentrés des troupes, des milliers d'hommes étaient là. Donc on peut imaginer que c'était aussi des choses qui leur permettaient évidemment de se projeter à l'extérieur. Venons-en à la question architecturale, Françoise Gède. Quelle valeur est-ce qu'il faut conférer à l'objet mur, on pourrait même presque dire l'enceinte en réalité, dans la culture chinoise? Vous avez rapporté une BD que vous avez sous les yeux, peut-être qu'on va pouvoir en parler un petit peu, sur l'architecture chinoise, dans laquelle on voit donc effectivement différents royaumes délimités par des murs. C'est un élément qui évidemment structure l'espace géographique et politique.
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai en même temps, je feuillette les pages d'un atlas qui nous montre toutes les variations des positionnements des murailles suivant l'emprise du territoire, donc un territoire politique en même temps qu'un territoire géographique. Et c'est vrai que effectivement, on est toujours avec cette longue ligne est-ouest qui délimite. J'ai lu ça aussi. Où est-ce que c'est, dans le très bon documentaire d'Arte? Non, c'est dans une publication ancienne d'Hachette qui délimite la zone des plus permanentes des autres. Donc on aurait non seulement une vocation militaire, comme on l'indiquait, une vocation aussi colonisatrice sur des territoires, c'est-à-dire de pouvoir avoir suffisamment de personnes qui puissent vivre en ayant des cultures et en ayant de quoi faire vivre la ville militaire qui est là, la colonie militaire, mais aussi du coup, par rapport à ce fameux vent qui vient des steppes, un élément protecteur.
Mais est-ce qu'on peut finalement comparer cette grande muraille de Chine à ce qu'on voit dans les habitats traditionnels, avec ces cours intérieurs entourés de hauts murs? On en trouve évidemment des déclinaisons un peu différentes partout. Vous l'expliquez dans un de vos articles, dans la région du Tibet, chez les Hakka au Fujian, dans les villages du Zhejiang. Mais tous s'inspirent finalement de cette maison à cours. Vous écrivez dans un article, je vous cite, « La présence des murs s'inscrit dans le paysage chinois à plusieurs échelles, celle de l'habitation familiale, du quartier dans la ville, de la ville dans son site. » Est-ce que finalement cette grande muraille, elle joue ce rôle de mur enceinte qu'on voit dans les habitations individuelle? C'est un peu ça?
Alors, je le mettrai pas exactement sur le même plan, bien qu'on soit toujours dans une culture qui implique sans cesse le microcosme et le macrocosme. Mais effectivement, si je prends rien que le terme Chang, si je lis les définitions de Paola Kalanka et François Wildt, ville fortifiée, rempart, muraille, et ce terme Chang, on le retrouve dans grande muraille et on le retrouve pour dire ville. Donc déjà on commence à être dans la panade, je dirais, pour nous, esprit cartésien. Et une fois qu'on est dans cette panade, effectivement, on parle après des murs extérieurs et des murs intérieurs. Donc là où nous, dans notre vocabulaire, on va les différencier, en chinois, on les différencie pas immédiatement.
Même si on établit quand même une différence, parce que vous racontez très bien, par exemple, sur cette délimitation entre l'intérieur et l'extérieur, vous dites que la bordure commerçante, par exemple, qui enserre un quartier de Shanghai, sera considérée comme intérieure pour nous autres touristes occidentaux, alors qu'il sera vu comme extérieur par un habitant chinois. Pour quelle raison? Et finalement, comment est-ce qu'on définit justement ce qui est intérieur et ce qui est extérieur?
C'est vraiment une très jolie question que vous me posez là, parce qu'en fait, je me souviens d'avoir mis beaucoup de temps à comprendre avec un interlocuteur shanghaïen ce qu'il appelait le bord du quartier. Et on n'avait pas le même bord. Alors, a priori, on pense qu'on parle de la même chose et on s'aperçoit que non. Et donc, on est sur une sorte de paroi poreuse. Et cette paroi poreuse, j'ai aussi, comme je vois que vous avez bonne référence, puisque je citais dans cet article sur l'esthétique chinoise, je citais aussi les études de Catherine Despeux sur la peau, et qui nous parle de la peau comme étant justement, suivant les cas, soit considérée de l'intérieur, soit considérée de l'extérieur. Et si je pousse encore plus loin, je me dis, mais nous, on connaît très peu, sauf de manière ponctuelle, des murailles qui sont en même temps des routes. Or, la Grande Muraille, c'est aussi une route. Alors, si on en revient cette fois au mur, chaque fois que je suis dans le sud de la Chine et que je vois, mais même dans le nord d'ailleurs, et que je vois les murs, je trouve que c'est des très très beaux écrans pour mettre en valeur la lumière et l'ombre. Et que si on cherche à voir l'ombre et toutes les couleurs de l'ombre, on les voit jamais sur nos murs à nous, parce que malheureusement, ils sont percés de fenêtres. Alors que vous êtes en Chine, vous voyez ça dans les dépliants touristiques, on va vous montrer les murs rouges de la cité interdite de Pékin, sur lesquels vont se déployer des ombres qui vont changer suivant la lumière, suivant la saison, etc. Vous allez dans le pays du fleuve bleu, dans le Tiangnan, là, comme on a un degré d'humidité extrêmement fort, la couleur des ombres va varier aussi suivant les saisons, même si on est toujours dans une sorte de brouillard, c'est pas très joli, donc... Ça va pas donner envie d'y aller, mais une sorte de brume qui n'est pas seulement celle de la pollution, je précise, qui justement ne cesse de mettre en valeur les ombres. Et cette mise en valeur des ombres, quel meilleur support que le mur blanc ? Donc effectivement, ce mur, il a beaucoup de vocations, une vocation de révélateur, une vocation de protéger tout un milieu qui va vivre de manière beaucoup plus introspective, tournée vers la cour, ou tournée vers tous les espaces publics qu'on a à l'intérieur de la ville, par exemple, et tous ces espaces publics, je pense aux cours qu'on a dans les temples, près des pagodes, qui servaient pour les foires, je suis là dans la Chine traditionnelle.
Oui, qui sont en réalité des espaces semi-publics, en réalité.
Il y a de l'animation. Il y a de l'animation quand j'ai le terme chinois qui me vient à l'esprit. Donc, zhenao, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit, que les gens parlent fort. Donc, c'est un endroit bien puisqu'on y parle fort et qu'on y vient en nombre. Donc, effectivement, on n'est pas, pour moi, dans un mur qui isole. Il a cette vocation, mais c'est aussi un mur qui révèle. Et là, c'est une des ambiguïtés auxquelles on ne pense pas a priori.
Un mur qui isole, un mur qui révèle aussi. Vincent Durand-Asté, vous n'êtes pas architecte, mais que vous inspire justement toutes ces considérations sur la place du mur dans la culture architecturale chinoise.
Ah, c'est bon, les espaces maintenant dans la littérature, dans ce que je connais le mieux, le récit littéraire depuis le 8e, 9e siècle.
On y reviendra tout à l'heure, hein, pas d'inquiétude.
Les quartiers, par exemple, des villes que l'on fermait dans la capitale des Trang au 9e siècle, à Chang'an, par exemple, beaucoup d'histoires sont conditionnées par cette fermeture des quartiers, des portes des quartiers. Un homme qui a passé la nuit avec une belle femme qui s'avérera être une renarde le découvre parce qu'il attend l'ouverture de la porte du quartier le matin, et le marchand turc lui dit « Ah, tu as encore été fait prendre par la renarde, toi ». Donc il y a aussi un collègue avait appelé un de ses livres sur le roman chinois La brèche dans la muraille, parce que c'était parce que un mur s'effondrait que le héros pouvait apercevoir l'héroïne, jeune fille de bonne famille et dûment cloîtrée, qu'il n'aurait pas pu apercevoir sinon. Bon, voilà un des reflets, par exemple.
Il y a une quinzaine d'années, Françoise Gède, encore un mot sur la question architecturale. Lors de la Biennale de Venise de 2002, le groupe Soho, qui est une agence d'architectes chinois, a présenté un certain nombre de projets d'hôtels, de suites situés à proximité de la muraille. Quel regard vous portez sur cette opération architecturale? Je crois qu'elle vous avez été conquise par ce programme.
J'ai été conquise par beaucoup de choses à travers ce programme qu'il faut vraiment placer dans son temps. On est juste après la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et du coup, il devient possible d'inviter des architectes de Hong Kong puisqu'ils font partie de la Chine. Et ce groupe Soho, qui est devenu depuis extrêmement connu pour avoir fait appel à des architectes comme Zaha Hadid et par l'ampleur des opérations qu'ils produisent, sont à l'époque des petits jeunes qui arrivent tout juste de l'île de Hainan, et ils ont cette idée qui est une idée absolument incroyable de se dire on va favoriser les jeunes équipes d'architecture chinoise, non seulement du continent, mais aussi de l'Asie. Donc ils vont inviter Taïwan. C'est la première fois que je vois des architectes de Taïwan.
Il y a des architectes japonais.
Coréens. Qui viennent pour faire ce qui est à l'époque la seule contrainte du programme, une maison à 1 million. Donc Quel est le programme? Non, on n'en a pas. Mais en revanche, ils ont un lieu qui est d'une poésie absolument incroyable dans ce paysage.
Oui, parce qu'on est sur un site très éloigné des villes en réalité, une nature qui a échappé à l'urbanisation galopante qu'on voit en Chine, dont on parle tout le temps.
Oui, on est à le temps de sortir des embouteillages, 1h30 de Pékin. Dans un Pékin qui, à l'époque, n'a pas de lieu de réception. Imaginez que vous êtes à la tête de Peugeot ou BNP Paribas et que vous voulez inviter quelqu'un et vous n'avez pas de beau lieu de réception. Eh bien, c'est ce vide que vient combler cet ensemble de programmes où les architectes imaginent un positionnement dans la montagne et ont carte blanche pour faire une démonstration d'architecture.
Oui, parce que, je le précise pour les auditeurs, on voit effectivement cette Chine pleine de villes, ce qu'elle est, mais en réalité, une très grande partie de cette muraille est située, ces différentes portions sont situées dans des zones très peu habitées en réalité. On va parler de la question du tourisme.
This is why we...
C'est là que nous allons en premier. Nous dormirons là-bas. Il reste une demi-heure à travers les montagnes pour arriver à la muraille.
Un ami m'avait averti qu'il y avait des milliers de touristes et je ne voulais surtout pas ça. Alors j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé cette agence et c'est top.
Je suppose que le camping, c'est un truc d'Européen peut-être. Et que ce n'est pas très décent pour un Asiatique de sauter dans un sac de couchage. Nous concernant, on a déjà campé par 0 degré, alors pourquoi pas ici? C'est tellement beau et chaud. Mais le camping va sûrement se développer dans le futur.
Tout commence un peu en retard en Chine, mais grandit très vite. Peut-être, dans 2 ans, ils auront des milliers de campings, qui sait?
Eh oui, les campings se développent un peu aux abords de la muraille, même s'il faut le dire, pour le moment, ce sont surtout des Occidentaux qui s'y adonnent. Cette grande muraille qui est l'une des principales attractions touristiques du pays. Chaque année, ce sont plus de 15 millions de personnes qui s'y rendent. Benjamin Tonnet, on va retrouver donc un nouvel invité qui est donc géographe, Benjamin Tonnet, maître de conférence à l'université d'Angers, un spécialiste du tourisme en Chine. Alors cette muraille, Benjamin Tonnet, elle n'a pas toujours été aussi visitée. Vous racontez qu'il y a une trentaine d'années, on pouvait facilement se rendre sur la muraille et faire une photographie avec quasiment personne sur le site. Aujourd'hui, c'est devenu carrément impossible. Depuis quand est-ce qu'elle bénéficie du succès qu'elle rencontre aujourd'hui, Benjamin Tonnet?
Alors moi je dirais qu'elle bénéficie d'un succès depuis que le tourisme à l'intérieur de la Chine, c'est-à-dire les ressortissants chinois qui se déplacent dans leur pays, peuvent se déplacer. Et ça, c'est une conséquence de la politique d'ouverture qui a été lancée à la fin des années 70, et notamment au début des années 80. Comme vous le dites, au début des années 80, on a des clichés d'étrangers, au sens d'Européens, d'Américains, qui étaient seuls ou quasiment seuls sur la Grande Muraille. Mais 30 ans plus tard, en 2012, il y avait un cliché qui avait circulé sur Weibo, le Twitter chinois, où on voyait un touriste qui venait de Hainan, l'île au sud du pays, qui se prenait en photo dans un selfie avec derrière lui 80 000 personnes. Donc vous imaginez la densité, la force de cette foule. Donc en 30 ans, on a vraiment eu cette émergence, ce développement et cette massification d'un tourisme interne chinois.
Et cette muraille, c'est aujourd'hui une attraction majeure pour le pays, qui dispose d'ailleurs d'une note, parce que on donne des notes sur les sites. Je crois qu'elle a 4A, cette muraille de Chine. Ce qui dit d'ailleurs beaucoup sur la concurrence entre les sites, qui est extrêmement vive, et donc de l'importance du secteur touristique.
Tout à fait. Alors le secteur touristique rapporte énormément au PIB. Et vous avez raison, les lieux en Chine, ils sont classés en fonction d'un certain nombre de A. Ça va de 2 jusqu'à 5. Alors je crois que la muraille est maintenant 5A. C'est un des principaux sites visités à l'échelle du pays. Et ces 5A, ils sont fonction des services que l'on va trouver dans les lieux touristiques. Est-ce que le lieu est accessible? Des choses aussi simples aussi. Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce qu'on peut avoir le Wi-Fi, etc.? Alors c'est d'un côté la notoriété, d'un autre l'accessibilité et les services. Donc vraiment, c'est pas n'importe qui donne de l'importance, c'est bien le gouvernement central qui a choisi un certain nombre de lieux. Et eu égard à l'importance historique de cette grande muraille, le gouvernement central, dans les années 80, a très rapidement donné cette note, alors à l'époque jusqu'en 2007, 4A, et après 2007, 5A.
Je voudrais qu'on parle des visiteurs. Pourquoi est-ce qu'on va visiter la muraille de Chine? Est-ce que c'est pour faire une plongée dans les profondeurs de son passé? Est-ce qu'il y a des motivations historiques et culturelles? On l'imagine bien. Mais est-ce qu'il y a aussi autre chose? Et qu'est-ce que c'est justement cette autre chose?
Je pense que c'est un ensemble de choses. Évidemment, les aspects historiques sont importants, mais si on voulait les disséquer un petit peu, on pourrait revenir dans une période récente à ce qu'a dit Mao, notamment sur la Grande Muraille, qui nous a dit que celui qui n'avait pas été sur la Grande Muraille n'était pas un homme au sens de Han, hein, en chinois, c'est-à-dire vraiment de la nationalité majoritaire. Donc c'est un lieu, je dirais, incontournable historiquement, mais il l'est aussi, j'ai envie de dire, pour les étrangers. C'est un haut lieu du monde.
Mais vous vous rappelez ce proverbe, donc celui qui n'est pas allé sur la Grande Muraille n'est pas vraiment un homme. Donc il y a quelque chose véritablement de l'accomplissement de soi en réalité derrière tout ça. Mais ça c'est une démarche disons individuelle, voire même carrément individualiste. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose peut-être de plus large, de plus collectif? Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière la visite de la muraille quelque chose de l'ordre d'une démarche nationaliste? Est-ce qu'on ne se fait pas soldat, alors évidemment pacifique puisqu'on reste un touriste, mais soldat du patriotisme contemporain?
Oui, il y a eu un dessin, et de nombreux auteurs l'ont montré, il y a eu un dessin nationaliste dès le départ. Et je pense que si aujourd'hui on s'y rend, c'est aussi parce que on a été conditionné, si j'ose dire, depuis l'école, avec des références au récit national, à la grandeur de la Chine, qui s'était protégée des barbares venus du Nord. Et, bon, et en même temps, on oublie très rapidement, la Chine n'est pas le seul pays à le faire, que plusieurs des dynasties au cours des derniers siècles ont été des dynasties qui n'étaient pas des Han. Donc c'est vraiment la construction, je pense, récente aussi d'une histoire nationale et nationaliste.
Benjamin Tonnet, très régulièrement, il y a évidemment des restaurations sur le site par petites touches, mais parfois ces restaurations sont assez approximatives. En tout cas, elles ne respectent pas forcément l'origine, l'authenticité des matériaux. Par exemple, il n'est pas impossible de refaire toute une partie avec des briques neuves. En septembre 2016, il y a eu pire, puisqu'il y a eu toute une portion qui a été carrément bétonnée. Comment le comprendre ?
C'est vrai que c'est quelque chose qui peut choquer quand on se rend la première fois en Chine. Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de le comprendre. Sur les aspects historiques, déjà, la notion de patrimoine en Chine, elle peut se comprendre de différentes manières. Alors, il y a une belle thèse de 2003 de Zhang Liang qui disait, en substance, que c'est pas l'architecture qui est importante, c'est l'architecte. Donc, c'est plus que le lieu, plus que le bâti, surtout, c'est l'esprit du lieu, c'est la personne qui l'a habité. Et en cela, reconstruire, voire construire, ça pose pas un problème. Alors, ce qu'on oublie souvent aussi, d'une manière historique, c'est que dans l'histoire chinoise, on se rend compte que les lettrés étaient amateurs d'art et qu'ils conservaient des objets. Et d'ailleurs, plutôt que de définir un patrimoine bâti, ils ont une multitude de termes. Alors, on a Wenwu qui est le plus utilisé, mais on a aussi Guji, Gudong, etc., qui s'attachaient à préserver un certain nombre d'objets. Donc plutôt que de préserver un ensemble, on allait préserver des parties symboliques. On a d'ailleurs, dès le 19e siècle, des décrets impériaux qui insistent sur la protection qu'il faut faire de ces objets. Alors si on va un peu plus loin dans le sens attribué à ces mots, on se rend compte aussi que la qualité de la nouveauté fait partie de la préservation des objets. C'est-à-dire qu'en reconstruisant, notamment, eh bien, on peut permettre de mieux conserver l'histoire, on peut mieux conserver l'esprit de ce qui a vécu.
Oui, mais donc ça veut dire que la notion de patrimoine, elle est extrêmement différente, on le comprend très bien. Et en même temps, sur la portion bétonnée dont je vous parlais de septembre 2016, on voit que ça a provoqué un tollé immense sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que là aussi, il va y avoir des choses à voir avec Françoise Jette, parce que peut-être que cette notion de patrimoine est en train de changer. Tout dernier mot, peut-être Benjamin Tonnet, parce que précisément, je suis allé là sur le site de la Grande Muraille de Chine, et voilà ce que j'y ai lu. Alors il y a une version en français, et je vous lis ce qu'on peut lire. Afin d'assurer la protection et la sécurité du site, une limitation du nombre de visiteurs sur certaines parties du mur est envisagée. Le tourisme permet de maintenir l'entretien de la Grande Muraille, mais le nombre toujours plus important de visiteurs menace également son érosion. Donc vous voyez, il n'est pas exclu qu'on limite le tourisme pour préserver le site justement. Donc il y a peut-être là, cette notion de patrimoine qui est en train d'évoluer, on le voit avec ce souci-là, cette préoccupation, non ?
Je pense qu'en fait c'est une question extrêmement complexe. On l'a vu avec les Rutong au cœur de Pékin, ils ont été préservés à partir du moment où un certain nombre de résidents qui avaient les moyens de visiter sont montés d'une certaine manière en association pour préserver le site. C'est la même chose. Et on voit, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est aussi des élites intellectuelles qui lancent un certain nombre de mouvements qui sont suivis par la suite. Alors bien sûr, il y a des changements. Mais ce qui provoque peut-être plus le tollé, c'est que les lieux touristiques où il y a du patrimoine, il y a un enjeu économique derrière ces lieux-là. Ouais. Ils sont là pour développer, et on l'a vu dans les années 80, 90, le patrimoine a servi d'argument pour le développement du tourisme. Aujourd'hui, au moment où on a une massification du tourisme et on peut aller plus loin que dans ces hauts lieux, il est peut-être logique que certaines personnes s'insurgent contre ce fait-là.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Merci beaucoup à Benjamin Tonnet, donc géographe, maître de conférence à l'Université d'Angers, un spécialiste de cette question du tourisme en Chine. Françoise Gède, un mot peut-être sur cette notion de patrimoine en Chine, très différente, on l'a dit, de celle qu'on a, nous, ici, en Europe, en France, et sur cette idée que peut-être elle serait en train d'évoluer.
Elle évolue depuis 20 ans, de manière constante en France. On ne parle pas des mêmes choses quand on parle de patrimoine maintenant. Et en Chine encore plus. Et nous, on a l'occasion de travailler avec des organismes dont c'est le domaine de spécialité. Et là-dessus, effectivement, je vois à Tianjin, qui a une université d'architecture avec des personnes spécialisées sur le sujet, avec des équipements extraordinaires, des drones qui leur permettent justement de faire des relevés, avec des architectes qui ont plus de 60 ans, donc qui n'ont rien à perdre à dire ce à quoi ils pensent et qui ont des valeurs à défendre, on est effectivement sur des positionnements qui peuvent être très différents de ceux des maires qui ont 4 ou 5 ans devant eux, pour développer une politique commerciale où patrimoine veut dire une image et un commerce qui va apporter des revenus. Donc, en Chine comme en France, le terme de patrimoine va avoir des valeurs très différentes, même si spontanément dans la presse, on ne va pas avoir le même sens en Chine qu'en France.
On entend là, c'est un chant qui évoque une légende, la légende de Meng Zhongnu. Alors, reprenez-moi parce que je suis à peu près sûr d'avoir mal prononcé Vincent Durand-Asté. Meng Zhongnu.
Alors, Meng Zhongnu.
Bon, Meng Zhongnu, qui est l'héroïne d'une légende chinoise très connue qui fait référence à l'époque de la construction de la muraille sous le règne du premier empereur chinois, on l'a dit tout à l'heure. Il est question d'une femme qui se rend à la Grande Muraille à la recherche de son défunt mari. Racontez-nous cette légende qui fait écho à tous ces hommes morts d'épuisement en construisant cette Grande Muraille.
Alors, au départ, l'histoire de Meng Zhongnu n'a rien à voir avec la Grande Muraille. C'est une histoire de l'Antiquité. Un duc revient de la guerre, il annonce à une femme la mort de son mari au combat, et elle pleure tant et tant que les murailles de la ville où elle habite s'effondrent. Mais vers le 8e, 9e siècle, on trouve l'histoire développée, et cette fois-ci associée à la muraille du premier empereur. Alors, je vous me permettrai de la raconter un tout petit peu longtemps.
Je vous en prie, au contraire.
Meng Zhongnu, donc, est une jeune mariée. Elle vient d'épouser un homme du nom de Qi Liang. Mais, à peine marié, il est conscrit. Il est envoyé là-bas, très loin au nord, sur la Grande Muraille. Et au bout de quelques temps, elle décide, à l'approche de l'hiver, d'aller lui apporter des habits pour le froid, des habits pour l'hiver. Elle fait son ballot et elle va effectuer un long et périlleux voyage à travers toute la Chine. Et finalement, elle arrive près de la Grande Muraille. Et là, on lui apprend que son mari est mort. Et que non seulement il est mort, mais qu'il a été enterré sous la muraille. Mais nul ne sait où. Alors Meng Zhongnu monte sur la muraille, et comme elle ne sait où son mari est mort, elle se mord le doigt. Et elle laisse goûter de son doigt son sang, et le sang ruisselle sur la pierre, mais à un moment, le sang pénètre la pierre. Et elle sait que son mari est là, en dessous. Alors elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure, et elle pleure tant et tant que la grande muraille s'effondre, laissant apparaître les ossements de son mari. Alors le premier empereur apprend cela, il n'est pas content du tout, il la fait arrêter, il va la faire exécuter, mais à peine est-elle en sa présence,
qu'il en tombe amoureux.
Follement amoureux, elle est très belle. Alors, elle accepte de l'épouser, mais elle pose ses conditions. Le premier empereur devra porter lui-même le deuil de son mari défunt. Il devra conduire lui-même une cérémonie d'hommage de funérailles. Et le premier empereur, la tête complètement tournée par la belle Meng Zhongnu, accepte, obéit, fait tout ce qu'on lui demande. Et quand il lui demande même cette fois-là de l'épouser, eh bien, elle monte tout au bout de la grande muraille et elle se jette dans la mer pour ne pas épouser l'empereur. Voilà un peu l'histoire telle qu'elle s'est. Alors, elle existe dans des dizaines de versions. C'est un synopsis.
En tout cas, cette légende, c'est légende, parce que vous le disiez, elle existe dans plusieurs versions. Elle montre très bien combien, dans l'imaginaire, cette muraille est associée à l'idée de mort, qui est omniprésente.
Tout à fait. Alors c'est un. Alors il faut dire que la Grande Muraille jusqu'au XXe siècle a une image épouvantable dans la culture chinoise, tant la culture populaire que la culture lettrée. Et c'est le territoire du travail forcé, de la guerre, du froid, de la proximité des barbares dangereux. Et un thème qui est présent dans la poésie chinoise depuis la plus haute antiquité, les eaux abandonnées sur la steppe et qu'on n'a pas des gens morts à la bataille et qu'on n'a pas recueillis. Et c'est la faute des monarques de n'avoir pas, d'avoir laissé comme ça ces eaux à l'abandon. Cela figure dans l'anthologie des poèmes, le Shutting, cela figure dans les élégies de Chu, et cela sera repris constamment. Alors, d'abord dans une poésie lettrée, qui devient qui est un cliché, hein, on dépeint à grande muraille, quelqu'un laisse abreuver son cheval, il y a des eaux blancs épars sur la steppe, et un froid coupant et mordant. On parle pas tellement des ennemis d'ailleurs, mais plutôt de ce territoire glacé qui est un territoire de la mort.
Et cette légende, elle est toujours contée, en tout cas même parfois chantée plutôt au moment des funérailles, je crois.
Alors voilà, il y a tout à fait. C'est une. Alors cette légende a été. Elle a une histoire très intéressante en elle-même. Elle a été redécouverte au XXe siècle par des jeunes folkloristes chinois qui étaient des intellectuels révolutionnaires.
Dans les années 1920.
Oui, 1920-1930. Et ceux-ci ont vu dans cette histoire parce que son principal protagoniste était une femme, une remise en cause de l'ordre patriarcal, une revendication de l'amour libre face aux contraintes de la société qu'ils appelaient féodale. Donc ça a été, il y a une espèce de lecture en quelque sorte féministe de la légende. Mais a été oubliée une dimension rituelle profondément ancrée dans cette légende, qui est justement une histoire de l'hommage aux morts. Et il faut rappeler par exemple que les pièces de théâtre qui mettent en scène l'histoire de la belle Meng Tiang sont jouées par exemple très souvent la nuit. Elles font partie, avec les pièces qui racontent le voyage aux enfers du moine Moulien et les pièces qui racontent le voyage au paradis du roi des singes et du moine Xuanzang, elles font partie de ces pièces que l'on joue pour les morts, en hommage aux morts. Et les balades autour de Meng Tiangnu sont chantées souvent lors des funérailles. Donc c'est donc la présence des larmes, qui est très importante, fait partie justement de cette. C'est une histoire. Hein, on va vers le pays de la mort. Et d'ailleurs les vêtements qu'elle apporte à son mari, les hani, les vêtements pour le froid, c'est aussi un autre nom des vêtements qu'on met aux morts dans leur cercueil avant de les enterrer. Oui. Donc il y a une véritable. C'est une histoire de deuil et de larmes. Et c'est aussi une histoire du pouvoir spécifique des femmes dans ces circonstances qui versent le sang et qui versent les larmes. Deux thèmes très importants dans les pouvoirs qu'on prête aux femmes dans la religion chinoise.
Alors cette légende, elle va acquérir une certaine centralité, une très grande importance, vous le dites, à partir du début du XXe siècle. Faisons un petit saut dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer à l'époque Mao? Comment cette légende, et puis plus généralement, la muraille, va être perçue, représentée à l'époque de Mao?
Alors, Mao, la légende de Meng Tiang, il n'aime pas. Et elle sera même explicitement dénoncée comme herbe vénéneuse pendant la Révolution culturelle.
Pour quelle raison?
Eh bien, Mao s'est identifié au premier empereur. Il a, alors, dans la lignée d'une réhabilitation de la Grande Muraille comme chef-d'œuvre de la nation chinoise, que les Chinois ont eux-mêmes repris de jugement des Occidentaux, puisque ce sont les Occidentaux qui, visitant la Chine à l'époque mandchoue et voyant effectivement les si spectaculaires fortifications sur les montagnes autour de Pékin, ont été fascinés, l'ont décrit, et on trouve déjà chez Voltaire des considérations sur la grandeur de cette muraille et également son inutilité. C'est d'ailleurs, semble-t-il, au XVIIIe siècle que commence que prend source l'histoire de la fameuse de la muraille qu'on verrait de la Lune. Ça commence là. Et puis donc, Sun Yat-sen, donc le père de la première République chinoise.
C'est un antiquaire britannique qui, à l'époque, écrit, je crois, dans une lettre que cette muraille est tellement grande que peut-être on peut l'apercevoir de la Lune. Et à partir de là, un certain nombre d'auteurs vont reprendre cette idée-là et ça va devenir une fausse idée qui se diffuse un peu partout et qui continue d'exister aujourd'hui.
Oui, ça fait boule de neige. Il y a une, je pense, dans les années...
Armstrong avait confirmé qu'on ne la voyait pas de la Lune, d'ailleurs, pour la petite histoire.
Oui, on ne la voit pas de la Lune. Pas plus que les autoroutes belges. Autre légende qui est parfois rapportée.
We'll be right back.
debout les gens qui ne veulent plus être des esclaves. C'est avec notre chair que nous bâtirons notre nouvelle grande muraille. La nation connaît son plus grand danger. Chacun doit pousser un dernier cri. Debout, debout, debout. La marche des volontaires, l'hymne national de la République populaire de Chine, qui a été composé en 1934, qui devient l'hymne national en 1949. Pendant la révolution culturelle, elle sera remplacée par l'Orient héros, célébrant le culte du grand timonier. Puis finalement, en 1982, cette marche des volontaires redevient l'hymne national. Françoise Gède, à l'instar de l'hymne qu'on entendait là, la légende de Meng a retrouvé sa place centrale dans la culture chinoise après Mao, Vincent Durand-Dastet nous le disait, à tel point qu'on l'a même placé, les autorités l'ont placé sur la liste du patrimoine immatériel de la Chine il y a quelques années maintenant. Comment se fait-il qu'elle ait retrouvé justement toutes ces lettres de noblesse malgré la mauvaise image qu'elle avait à l'époque maoïste? Et qu'est-ce que ça vous semble révéler de l'inventaire qui a été fait de cette époque maoïste?
Alors, sur le patrimoine, en fait, on a les premières reconnaissances nationales qui vont de pair avec le début de l'ère Mao, puisque Chou Enlai va demander à plusieurs grands architectes de repérer qu'est-ce qui mérite d'être mis en avant. Et ce, dès le début de la guerre contre le Japon. Et en 1961, quand on a la première liste d'édifices ou de biens culturels, pour reprendre une définition un peu large et qui colle au mot chinois, la Grande Muraille fait partie de ces biens emblématiques du pays. Alors effectivement, dans cette mise en avant d'un courant nationaliste, il y a tout ce qu'évoquait Vincent à l'instant, avec la montée d'un nationalisme qui régulièrement revient, avec l'identification à l'empereur jaune, avec la reconstruction en fait d'une histoire nationale, en même temps que la Chine affirme sa puissance économique, j'aurais tendance à dire. Et puis, il y a d'autres types de travaux, et Benjamin Tonnet faisait tout à l'heure allusion à cette énorme pression du tourisme, qui est là, de facto, en Chine, dès lors qu'on a congé, et dès lors qu'on a cette population citadine qui vient visiter des lieux. Et effectivement, avec cette volonté de se dire, pour éviter une destruction qui ait lieu du fait de l'usage trop poussé de la Grande Muraille, des pas des visiteurs et des pieds, des mains, de tout ce qui va toucher les matériaux, il faut pouvoir élargir le patrimoine dans son acceptation même. Et donc la Grande Muraille, ce n'est plus seulement le mur, mais c'est aussi les tours de guet, c'est aussi les villages de garnison, les petites cités fortifiées qui sont autour, et là où encore on a plusieurs visions qui vont s'affronter sur ce qu'est patrimoine. Est-ce que c'est uniquement un objet de consommation pour lequel on va refabriquer une image, ou est-ce qu'au contraire c'est un lieu vivant? Donc je dirais que la différence, elle va s'établir là, sur la vision qu'on a d'un territoire et des habitants qui l'occupent. Et du coup, on a les deux visions, nationaliste ou pas.
Et par ailleurs, il y a une chose peut-être qu'on pourrait noter aussi, c'est que bien sûr, cette identité nationale, elle se construit depuis l'intérieur, mais elle se construit aussi depuis l'extérieur. Les Occidentaux ont été très frappés, très marqués, très impressionnés par cet extraordinaire édifice, par cette muraille de Chine. Et en réalité, c'est aussi quelque chose qui a considérablement renforcé l'image de cette grande muraille auprès des Chinois eux-mêmes. Françoise Gère.
Tout à fait. Et je crois avoir vu une image il y a longtemps montrant que Nixon, se rendant en Chine, et je crois sur la Grande Muraille, avait du coup apporté un regain d'intérêt par rapport à ce qu'il représentait pendant des années.
Parce qu'à l'époque, on ne la visait presque pas. On ne l'a pas dit. L'ouverture au tourisme, c'est 1957 sous Mao, mais en réalité, pendant très très longtemps, on n'y met pas du tout les pieds. Et pas seulement parce que le tourisme domestique n'est pas encore très développé.
Il n'y a pas de tourisme du tout, il n'y a pas de jour de, pas de moyens de transport, pas de jour de congé.
Vincent Durand-Dastet.
Oui, si on voulait être un peu cruel, la Grande Muraille, c'est un peu comme le panda. C'est quelque chose auquel les Chinois n'avaient accordé strictement aucun intérêt et qui leur a été restitué par l'image occidentale. Et la Grande Muraille est moins impopulaire que le panda, je pense.
Alors justement, ce regard des Occidentaux, il s'exprime notamment au cinéma. Deux mercenaires européens qui rejoignent l'armée chinoise pour délivrer l'empereur d'une menace mortelle. William Garin, joué par Matt Damon, mercenaire enfermé dans les entrailles de la muraille, qui découvre la fonction réelle de cet édifice, qui tremble sous les attaques répétées de créatures monstrueuses qui cherchent à anéantir l'espèce humaine.
Ils ont l'air nerveux. Très nerveux pour des gens qui ont une telle muraille. Incroyable. Regarde cette armée. J'ai jamais rien vu de pareil.
Les Taotai surgissent tous les 60 ans, comme un fléau qui s'abat sur le nord de la Chine.
Il faut partir. On doit les aider. Notre aide n'y suffira pas. Cette guerre est la première qui vaut la peine d'être menée.
La Grande Muraille, ce film de Yimou Zhang, un film super production sino-américaine qui a coûté 150 millions de dollars, une nouvelle étape dans la collaboration entre les États-Unis et la Chine en matière de production cinématographique et organise méticuleusement la contre-offensive en faisant retirer par exemple les mauvaises critiques sur des sites internet. Par exemple sur le site Douban, qui est un site de référencement de livres, de musique et de films, la note du film a miraculeusement bondi. On est passé de 4,9 à 8,4. C'est intéressant parce qu'on voit en réalité l'enjeu qu'il y a derrière tout ça. Ce film doit être un succès parce que cette grande muraille, c'est un symbole national et donc il faut absolument le protéger, Vincent Durand-Asté.
La Grande Muraille fut une super production, le film l'est aussi. Alors puisqu'on parle de Yimou Zhang, Zhang Yimou, hein, peut-être les auditeurs se rappelleront que c'est un réalisateur qui a commencé comme un cinéaste d'avant-garde, voire même un tout petit peu contestataire. Mais au fil des ans, il est devenu une sorte de cinéaste officiel. Et une des étapes sur ce chemin a été son film de 2002 qui s'appelait « Héros ». Et alors cela reprend justement, cela parle de Qin Shi Huangdi, le premier empereur. Et alors cela reprend un très vieux thème. Pourquoi n'a-t-on pas assassiné le premier empereur? Il y a eu des tentatives qui ont échoué. Il brode assez librement sur ce thème. Et un de ses son héros, qui n'a pas de nom d'ailleurs, il s'appelle Sans Nom, arrive devant le premier empereur et est sur le point de lui passer l'épée à travers le corps. Lorsque le premier empereur plaide sa cause et dit « Bon, je suis peut-être un tyran, en substance, hein, je suis peut-être un tyran, mais je suis le garant de la stabilité, de l'unité du pays et de la grandeur de la Chine. » Un discours qui est à peu près celui que tient le Parti communiste chinois pour légitimer son pouvoir. Et alors l'assassin putatif renonce, il se laisse cribler de dizaines de milliers de flèches, parce que Zhang Yimou déjà aime bien les scènes à grand spectacle, et lorsque le film s'achève, on voit un long travelling à 360 degrés sur la grande muraille, ouais, au soleil levant. Et pendant ce temps-là, on voit un texte qui défile et qui dit « Le roi de Qin donna l'ordre de faire des funérailles grandioses à l'anonyme ». En 221 avant Jésus-Christ, il unifia la Chine. Alors il mit fin aux guerres. Il bâtit la grande muraille, protégea le peuple et protégea le pays, et devint le premier empereur de l'histoire de Chine. On l'appela Qin Shi Huangdi. Six ans après, Zhang Yimou est le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais. Donc il y a effectivement là nous sommes dans la grande muraille reconquise, ouais, et voilà maintenant aujourd'hui la super production sino-américaine.
Comment il est devenu le cinéaste officiel. C'est vrai qu'on est bien loin de épouse et concubine qu'il avait adapté de ce livre de Su Tong, qui par ailleurs lui-même avait écrit un roman intitulé Le Mythe de Meng, qui était paru chez Flammarion en 2009 et qui reprend la légende chinoise dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est alors Soutron n'a pas suivi une évolution similaire à celle de Zhang Yimou. Absolument. Et son livre là, donc le mythe de Meng, est justement essentiellement centré autour des larmes et autour du pouvoir des larmes. Au début de l'histoire, hein, un roi a interdit que l'on pleura et on trouve alors les gens essayent de trouver des solutions et c'est Meng Tian comme la pleureuse par excellence qui finalement devient l'héroïne de l'histoire, où la Grande Muraille s'effondre à la fin mais tient un rôle assez faible.
Françoise Gède, alors je sais que vous n'avez pas vu ce film La Grande Muraille de Yimou Zhang, mais on voit donc dans ce film finalement cette Chine qui protège le monde d'un danger qui menace l'ensemble de l'humanité. On ne peut pas ne pas y voir un message politique de la part de Pékin.
Ah ben, moi, Grande Muraille, maintenant, ça m'évoque toujours aussi la protection du net et de toute l'information.
Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs le mot qu'on utilise.
Absolument, oui. Et en écoutant Vincent, je me disais, est-ce qu'on pourrait pas inventer un néologisme en disant Zhang Yimou a été grande muraillisé. Il est passé de l'autre côté du contestataire, il est devenu celui qui est aux ordres de l'ordre établi. Mm-hmm. Et effectivement, puisqu'il y a en même temps une contradiction absolument impressionnante. On parle de grandes murailles dont on a les chercheurs qui nous disent que maintenant c'est 20 000 kilomètres. C'est absolument...
21 000, j'en oubliais.
c'est impensable de se dire qu'on protège un ensemble de 21 000 kilomètres. Donc ça veut dire qu'on va prendre quelques tronçons dont on va faire une imagerie historique comme en fait Jean Guimau avec ses super productions pour en produire une image nationale correspondant à l'image qu'on veut faire passer d'un pays.
Oui, donc, et puis par ailleurs, et puis je finirai sur cette idée, mais le message qui est implicitement aussi délivré dans ce film, celui où donc des mercenaires européens rejoignent l'armée chinoise, voilà, on voit l'alliance finalement entre l'Asie et l'Occident, si on pense à l'époque contemporaine, la coopération entre l'Asie et l'Occident dans ce monde globalisé où on est tous interdépendants et où il faut s'allier pour se protéger. Bon, tout ça est peut-être assez loin de la guerre économique que se préparent les États-Unis et la Chine, mais on sent quand même quelque chose là. Il y a un message qui est intéressant, hein, Vincent Durand-Asté. Ça sera le mot de la fin.
Ben pour le mot de la fin, oui, ben on avait parlé de l'aspect subversif de personnages comme Meng Tianyu. Vous savez comment on appelle les femmes fatales dans l'histoire chinoise, celles qui vont près d'un empereur et qui lui font perdre la tête, oublier les affaires du gouvernement? On les appelle les Qingcheng, celles qui renversent les murailles. Peut-être qu'il manque un petit peu des renverseuses de murailles au pouvoir chinois actuellement.
Françoise Gène, en guise de conclusion.
Une longue et solitaire muraille, montagne de 10 000 gènes, une flûte barbare. Pourquoi cette complainte du saule brisé? C'était
un poème de
Wang Zhuan, je prononce bien, Vincent, ça va? Enfin, un extrait de poème.
Il a l'air de dire oui. Vous prononcez mieux que moi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Le vent du printemps ne traversera plus la passe de la porte de jade.
Merci infiniment à tous deux, Vincent Durand-Asté. Je rappelle que vous enseignez l'histoire de la littérature à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Un grand merci également à vous, Françoise Gène. Je rappelle que vous êtes architecte, responsable de l'Observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Je regrette que cette petite BD que vous avez en face de vous, dont on a déjà parlé quand vous étiez venu sur les ponts, soit pas disponible parce qu'elle est très très riche. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur cette grande muraille de Chine, sur ces grandes murailles de Chine parce qu'elles sont plurielles. C'était absolument passionnant. Merci infiniment à tous les deux.
Merci à vous.
On va retrouver un homme qui franchit les murs, les barrières, les frontières pour aller dénicher les idées. C'est Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors depuis le début de cette semaine, vous attirez notre attention sur les défis lancés aux médias légitimes par les stratégies de communication des politiciens populistes. Ces derniers ont un rapport bien particulier à l'information.
Ça y est, nous avons abordé aux rives bien inquiétantes du monde post-factuel, s'inquiète Francis Fukuyama. Un monde assez nouveau pour nous, un territoire où toutes les sources d'information disposant d'une autorité quelconque sont susceptibles d'être mises en question et contredites sur le net par le premier venu. Mais l'affaire atteint un niveau de gravité bien supérieur lorsque les plus hautes autorités déclarent remettre en cause les données de base fournies par les institutions publiques elles-mêmes. Ainsi, Donald Trump et ses porte-paroles autorisés n'accordent aucune foi aux statistiques officielles du chômage aux États-Unis. Alors que le Bureau des statistiques l'estimait en décembre dernier à 4,7%, le président élu l'évalait, lui, aux alentours de 42%. Comment le débat démocratique peut-il se poursuivre lorsque n'existe plus aucun accord sur les données des problèmes aussi fondamentaux d'un pays ? Dans le monde de Trump, tout est politisé, écrit encore Fukuyama. Aussi soupçonne-t-il les institutions censées l'informer de l'être autant qu'il l'est lui-même. Mais la campagne électorale américaine a entraîné au sein de l'opinion publique l'omniprésence du soupçon. Tout est dorénavant interprété comme favorable ou hostile à Trump. La démocratie américaine, prévient Fukuyama, ne survivra pas à la perte de confiance en la possibilité d'institutions réellement impartiales. Fin de citation. Mes partenaires de WorldCrunch me signalent un formidable article paru dans le grand quotidien canadien The Toronto Star, qui montre que la vague de post-vérité qui a atteint les États-Unis a déjà fait ailleurs bien des dégâts. Ainsi, lorsque Donald Trump s'accroche à l'idée fausse selon laquelle son investiture aurait attiré davantage de public que celle d'Obama, la journaliste Lisette Boone tweet aussitôt « Déjà vu, c'était so Venezuela !» Elle est journaliste dans ce pays, en français hein, déjà vu. Elle est journaliste dans ce pays, comme d'ailleurs Tamoa Calzadilla, qui a dû fuir le pays en 2015 et qui commente ainsi « Hugo Chavez et ses ministres aussi ne cessaient de créer une réalité parallèle ». Et s'il n'y avait que le Venezuela ? Réaction similaire de la part d'un journaliste turc, Mahir Zailanov, toujours recueilli par le Toronto Star. Trump, nous on a l'impression d'avoir déjà vu le film. Tout ça nous paraît tellement familier. Et voici que ce qui s'est passé en Turquie est maintenant rediffusé aux États-Unis. Mais il n'y a vraiment pas de quoi rire, selon un autre témoin de la révolution bolivarienne, Philippe Gonson, analyste de l'International Crisis Group à Caracas. Il dit « Ça commence comme ça. On jette le doute sur l'authenticité des choses que vous pouvez voir de vos propres yeux. Au bout d'un moment, vous cessez de croire à ce que vous avez sous les yeux. Et avant longtemps, le citoyen ordinaire commence à douter de tout. » Les leaders populistes, que ce soit Chavez, Erdogan ou Trump, usent toujours du même stratagème. Quand on leur oppose des faits qui ne cadrent pas avec leur vision des choses, ils répondent que le peuple est derrière eux. C'est d'ailleurs pourquoi Trump s'accroche tellement à ses prétentions concernant le chiffre des témoins à son investiture présidentielle.
Mais alors si la post-vérité a la capacité de se répandre avec une telle rapidité, n'est-ce pas à cause d'Internet ?
Ah oui, tous les commentateurs pointent ce même responsable, Internet et les réseaux sociaux. La plupart des gens obtiennent leurs informations sur le monde de manière prédigérée et personnalisée par les médias sociaux, écrit ainsi sur The Guardian britannique Simon Jenkins. On nous attribue des contenus, non parce qu'ils sont authentiques, mais parce qu'ils sont susceptibles de nous plaire. Et même son cloche sous la plume de Dario Braga de Il Sole, comment déjà, 24 ore. Encore une trouvaille de WorldCrunch d'ailleurs. Lui s'inquiète de ce qu'il appelle le populisme scientifique induit par la démocratie de réseau. Autant les publications scientifiques sont soumises à un contrôle rigoureux, autant fleurissent en ligne les sites les plus fantaisistes. Et de s'inquiéter des rumeurs répandues sur la toile à propos des vaccins. Les thèses d'Andrew Wakefield sur le lien entre le vaccin ROR et l'autisme ont beau avoir été réfutées depuis des années par le British Medical Journal, énormément de rumeurs continuent à circuler à ce sujet et elles tendent évidemment à dissuader de nombreux parents de faire vacciner leurs enfants. Ainsi, des maladies en voie de disparition dans nos pays grâce à la vaccination reviennent dangereusement en force. Mais puisqu'Internet favorise les infections informationnelles virales, comme dit Braga, c'est aussi sur la toile qu'il faut agir, d'après lui, par la prévention et en faisant circuler des anticorps, c'est-à-dire en rendant accessible une information véridique. Encore faudrait-il que le niveau de culture scientifique du public permette à chacun d'en prendre connaissance. Les économistes prétendent que sur un libre marché de l'information, la bonne chasse la mauvaise, écrit Fukuyama pour revenir à lui. Mais ce marché est faussé, prétend-il. Il est truqué, en particulier par le pullulement des trolls et des bots, ces machines qui s'expriment comme des vrais gens et distillent des éléments de langage calibrés. En Chine, puisque nous y sommes, en Chine opèrent plusieurs dizaines de milliers de censeurs. Et Poutine a recruté des légions de trolls afin de submerger les réseaux sociaux de sa propagande. Souhaitons qu'ils ne pourrissent pas la campagne électorale chez nous comme ils l'ont déjà fait aux États-Unis.
Eh bien oui, souhaitons-le. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique sur cette question de la défiance à l'égard des médias, sur cette question de la post-vérité dont on parle depuis lundi. On peut d'ailleurs réécouter toutes vos chroniques sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, site sur lequel d'ailleurs on peut réécouter également Culture Monde et podcaster également Culture Monde. Dans un très court instant sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Raphaël Bourgois.